Western crépusculaire, c'est très beau, c'est vraiment inspirant et Guillaume Caillard va faire la lumière là-dessus. Guillaume, qui est directeur général du Festival de films Cinémania, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Guillaume, donc, c'est quoi le Western crépusculaire?
Alors, Western crépusculaire, c'est une appellation qui est née dans les années 1960-1970. Il y a une tradition d'historiens, de théoriciens du cinéma assez forte dans ces années-là, notamment dans le cercle universitaire et critique. Les gens qui vivaient autour des cahiers du cinéma, par exemple, en France. Et notamment un grand, grand historien du cinéma qui s'appelait André Bazin. Et André Bazin, lui, avant qu'on parle de western crépusculaire, il parlait de sur-western.
Et c'est sur-western.
Ouais, des sur-western, donc sur-western.
Okay. Donc c'est comme j'ai vu un cheval par-dessus un cheval, mais là, c'est mon problème.
Ouais, ben c'est assez complexe. C'est-à-dire que ce sont des westerns particulièrement des films qu'on voit apparaître dans les années 1950, par exemple High Noon de Fred Zinnemann ou Shane de George Stevens, qui est un film de 1953.
Mm-hmm.
Et Bazin, je vais le citer là-dessus, pour lui, un sur-western, c'est un western qui aurait honte de n'être que lui-même et chercherait à justifier son existence par un intérêt supplémentaire. Alors cet intérêt, il serait d'ordre esthétique, sociologique, moral, psychologique, politique, érotique. Pour lui, c'est ça un sur-western. C'est-à-dire qu'il y a comme une scission, il y a une fracture par rapport au western classique des années 30, des années 40, donc les premiers John Wayne. Et dans les années 50-60, on voit apparaître ces sur-westerns, ces espèces de westerns beaucoup plus intellectuels qui viennent chercher des choses plus profondes, des grands chocs intérieurs chez les personnages, politiques, sociologiques.
Est-ce que les films de Sergio Leone pourraient se catégoriser western?
Ouais, sur-western.
Sur-western,
ben,
ouais.
C'est, ça, c'est un peu... Parce si qu'on je peux sait faire, si je peux faire la blague vendre la charrue avant les bœufs, ça arrive après. Mais le sur-western des années 50 et cette espèce d'appellation de ce grand critique André Bazin, elle est devenue au fil du temps quelque chose qu'on a appelé western crépusculaire. Donc, en gros, des films qui... commence à devenir, j'ai envie de dire plus sérieux, mais pas vraiment, en fait, c'est plus politisé,
ouais.
plus ancré dans leur époque, qui continue à parler de la conquête de l'Ouest, qui continue à se passer dans l'Amérique de la conquête de l'Ouest. Donc ça peut être des films des années, dont l'action se passe dans les années 1890, 1910, 1920. Qui sont tournés donc dans les années 50-60, qui continuent à parler de ça, mais qui commencent à intégrer des aspects psychologiques chez les personnages qu'on n'était pas habitué à voir. Parce qu'avant, on avait une forme très classique. Je fais une caricature.
Mais c'était ça quand même.
Les méchants, ouais. Les gentils, les cow-boys, les indiens, on va dire ça comme ça. Mais là, on commence à avoir des personnages qui
ont une profondeur.
En fait, ça coïncide finalement, le western, c'est ce qui a été le plus produit dans le cinéma américain de ces années-là. Et on commence à se rendre compte dans les années 50, 60, qu'on a déjà dit beaucoup de choses à travers ces récits-là et que la conquête de l'Ouest, elle est terminée. Donc, on arrive, pour faire une petite caricature, à l'océan Pacifique. On se retourne derrière et on se dit « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que la société américaine a conquis ?» Et finalement, on se retourne et on voit tous les échecs. Donc là, on voit apparaître une tendance dite crépusculaire. Des personnages qui sont rongés par la culpabilité et qui aussi vieillissent. Et là, on arrive à Sam Peckinpah, qui est un cinéaste que j'affectionne particulièrement et qui dans les années, en 1960, il fait son premier long-métrage, c'est The Deadly Companions, un western moyen dont il retient une expérience mitigée. En gros, il a des disputes avec son producteur. Ça marche pas vraiment, ce premier film, mais il est un peu moyen.
Ça arrive, une fois de temps en temps. Des chicanes entre réalisateurs et producteurs.
Et finalement, il fait son deuxième film. Ride the High Country, l'année suivante. Et ça, selon moi, c'est la définition parfaite du western crépusculaire.
Ah oui, si on veut comprendre ce que c'est, on regarde Ride the High Country.
Ça a été traduit, je trouve que le film, enfin le titre en français, c'est coup de feu dans la Sierra. Et en fait, c'est pour faire un autre jeu de mots là, c'est le coup d'envoi, selon moi, du western crépusculaire. C'est déjà une tendance qu'on retrouvait beaucoup dans certains films des années 50, certains réalisateurs, parce que d'une certaine manière, le western a toujours parlé de la mort de l'Ouest, etc., de la fin de la conquête, puisque c'est la notion de frontière qui revient. Mais alors là, on atteint un paroxysme parce que les personnages sont vieillissants. Ils ont, on va dire...
Des vieux cow-boys.
Ouais. Puis ils ont entre 60 et, on va dire, 75 ans. Ils sont fatigués. Ils ont un passé de conquête derrière eux. Et ce film raconte l'histoire d'un cow-boy, Steve Judd, qui est interprété par Joel McCrea, qui... Steve Judd.
Alors, oui, parce que ça sonne un peu comme ça.
Ouais. Mais lui, en fait, c'est un vieil homme qui est engagé par un banquier pour convoyer de l'or dans les montagnes. Et il est assisté par Gil, interprété par Randolph Scott, un ancien comparse qui va le trahir en essayant de s'approprier le butin. Et au final, je vends le punch, mais je suis obligé un peu pour en parler là, mais Steve meurt dans un combat avec des truands et son ultime réplique, « So long, partner », qui est destinée à Gil, envers qui, malgré leurs différends, il ressent toujours de l'amitié et partage la nostalgie de ce que fut l'Ouest américains de leur jeunesse. Et il y a une dernière image qui représente le héros, donc ce vieux monsieur qui a accepté une dernière aventure qui se solde par un échec cuisant, qui regarde une immense montagne, le décor de l'Ouest américain, parfois de l'Ouest canadien, parce que c'est tourné, on tourne aussi beaucoup ces films dans l'Ouest canadien.
Au Canada, ouais.
Parce que ça représente pas mal l'Ouest au niveau des décors. Il regarde cette montagne, puis là, ensuite, il se retourne vers le spectateur. Et c'est comme une manière de constater l'échec. L'échec de cette vie comme ça, de cow-boy, qui va d'aventure en aventure et qui coïncide avec la fin d'une certaine Amérique. Et surtout, un monde qui a évolué beaucoup trop vite, une société contemporaine qui le dépasse.
C'est vraiment profond, là.
Oui, c'est vraiment profond.
Je pensais aussi, tantôt, j'ai fait un lien avec lorsque vous parliez de sur-western avec Sergio Leone, on parle évidemment de son style comme du western spaghetti, mais il y a quand même une profondeur. Mais ça, on pourrait y revenir un jour. Alors, le western crépusculaire a fait beaucoup de petits, mais on continue à parler de ce cinéaste Sam Peckinpah, que je ne connaissais pas du tout, mais qu'il faut connaître, d'après vous, Guillaume Caillard.
Après Ride the High Country, il a beaucoup travaillé cette vision crépusculaire. Et son idée, c'est de casser les mythes classiques, de renoncer à la légende pour constater finalement le triste devenir de l'homme. Et il offre au genre une enfilade d'émotions retenues. Donc on a plein d'autres films. The Ballad of Cable Hogg, Pat Garrett and Billy the Kid, The Wild Bunch. Aussi, c'est ça le crépusculaire. C'est que là, Ride the High Country, c'est triste, ça finit de manière quasiment pessimiste, mais il y a aussi, le crépusculaire, c'est aussi l'entrée d'une hyper-violence dans les westerns. Et Wild Bunch, c'est quand même, donc La Horde Sauvage, c'est quand même un film extrêmement violent, dans lequel le montage devient très très rapide, il y a beaucoup, on ne sait plus qui sont les gentils, qui sont les méchants, finalement on s'en fiche.
Mm-hmm. Tantôt vous disiez... Les westerns traditionnels, là, on voyait que les cow-boys étaient les gentils et les Indiens les méchants, mais il y a eu une autre façon qui a été mise sur pied par d'autres réalisateurs où on voyait les Autochtones, les Premières Nations, les Indiens autrement. Là.
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le western crépusculaire, c'est aussi la naissance du film pro-indien. Donc on retrouve d'un coup des récits qui décident de suivre les Autochtones. Mm-hmm. Je pense à Little Big Man notamment, et même si on regarde plus récemment, Dancing with the Wolves, Danse avec les loups, c'est un peu un héritier contemporain de cette tendance-là. Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, faire du western crépusculaire, c'est aussi prendre le point de vue des populations autochtones, prendre le point de vue des Indiens, mm-hmm. entre guillemets, et comprendre leur... leur version du récit, leur version de l'histoire. Et finalement, les années 70, c'est ça, on retrouve beaucoup de films qui, avec les nouveaux cinéastes des années 70-80, vont revenir sur cette histoire de l'Ouest. Il y a des gens qui parlent de la mort du western. Moi, je ne pense pas que ça soit ça, c'est plutôt un renouvellement. Il y a en Italie, avec Sergio Leone, la naissance d'une, on va dire, une sous-branche du western crépusculaire. C'est le western spaghetti qui fait du crépusculaire en reprenant les mythes et en faisant des caricatures, beaucoup de...
Il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi un regard très, très incisif là, sur une certaine société... Dans, il était une fois dans l'Ouest, là, que j'ai revu récemment. C'est un film extraordinaire. Là.
Tout à fait. Puis des gens comme Clint Eastwood oui. sont aussi des enfants du western crépusculaire. Et plus récemment, il y a un très beau film, notamment avec Brad Pitt, qui s'appelle « The Assassinations of Jesse James by the Coward Robert Ford ». Donc, c'est vraiment un très beau film là-dessus.
Quentin Tarantino, lui, est-ce qu'on peut l'inscrire dans...
Ben complètement, oui.
Oui?
Complètement, oui. C'est sûr. C'est l'évolution, la suite logique, parce qu'aujourd'hui, on voit apparaître des westerns très contemporains qui sont à la fois un mélange d'un peu toutes les tendances du genre au fil de son mm-hmm. histoire. Puis il y a notamment, peut-être pour terminer avec celui-ci, récemment un film que moi j'aime beaucoup de John Hillcoat qui s'appelle The Proposition, qui est carrément un western crépusculaire australien. Tout se passe en Australie. Puis là, c'est carrément des grandes images de crépuscule tout le temps dans le film. Une teinte très orangée. Ça, c'est la définition parfaite.
Et vous avez évoqué dans vos notes Robert Altman, Arthur Payne, Michael Cimino.
Cimino, oui, tout à fait.
Si vous avez une suggestion à nous faire avant de nous quitter, Guillaume.
Ah ben moi, c'est Ride the High Country, le film dont on a parlé principalement, là, le second long métrage de Sam Peckinpah, un film de 1962, c'est très beau, très
oui,
touchant.
C'est facile à obtenir?
Oui, je pense qu'on le trouve un peu partout, c'est un classique.
Guillaume Caillard, directeur général du Festival de films Cinémania, un grand merci pour cette chronique.
Avec
bonne
plaisir.
Fin de semaine et on se retrouve pas vendredi prochain, mais l'autre.
À bientôt.
Merci Guillaume. Chronique qui roule au retour, restez là.